Florence Federle, le crime de la rancœur. De son côté, Florence Federle ne dit pas un mot. Elle se soumet à un prélèvement ADN et garde le silence pendant une bonne partie de la journée. Pendant ce temps, la police scientifique recherche de nouveaux indices dans le domicile. Ils sont arrivés trop tard. La moquette a déjà été jetée. Beaucoup d'affaires sont déjà emballées. Des meubles ont déjà été vendus. Florence et ses enfants étaient à une semaine de leur départ. Les policiers passent toutes les pièces au Blue Star. Celui-ci révèle la présence d'importantes traces de sang. D'abord sur le plancher de la chambre, sur la tête de lit, dans la salle de bain, et enfin dans l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Dans la cheminée du séjour, il y a encore des morceaux de chiffon blanc partiellement brûlés. Des morceaux similaires à se retrouver sous le cadavre de Yves. Les preuves s'accumulent et s'accumulent encore dans la voiture de Florence. Les enquêteurs y trouvent des photos d'un chantier sur lequel était en train de travailler l'entrepreneur. Sur certaines photos, ils remarquent la présence d'une bâche de couleur verte, très similaire à celle retrouvée sur la scène de crime. Dans le jardin, il y a également une petite piscine familiale avec autour une armature sur laquelle est censé se trouver un liner de sécurité. Celui-ci a disparu. Quand elle est interrogée à son sujet, Florence dit qu'en effet, le liner avait disparu sans qu'elle ne sache où son mari l'avait entreposé. Durant ses 48 heures de garde à vue, les enquêteurs mettent également la main sur la camionnette qu'Yves utilisait pour son travail. Elle avait été vendue 2 mois plus tard à des gens du voyage. Une inspection au Blue Star révèle encore une fois la présence de sang. Florence continue à s'innocenter, mais les enquêteurs perdent patience face à l'accumulation des indices et des preuves de sa culpabilité. Ils tentent le tout pour le tout en essayant de lui créer un choc émotionnel. Il lui révèle pour la première fois la manière dont son mari a été mutilé et carbonisé. Mais là encore, Florence ne se dénonce pas. Elle suppose que des barbares, ce sont ses termes, en voulaient certainement à leur argent. Concernant l'analyse toxicologique, Florence suppose que son mari a pris ses anxiolytiques que le médecin avait prescrits pour elle, car elle se sentait déprimée. Elle a réponse à tout, y compris pour les chiffons retrouvés dans la cheminée. C'est une habitude selon elle. Et pour ce qui est du sang, son mari travaille sur des chantiers. Il est bien probable qu'il ait pu se blesser dans un moment d'ivresse. En seulement 24 heures, Florence Federle a aligné les mensonges en permanence. Les enquêteurs ne les comptent même plus. Elle n'a aucun alibi. Ce mercredi 25 février 2004, elle se réveille à 6h45. Yves dormait encore. Florence contacte l'ouvrier de Yves pour qu'il ne vienne pas le chercher. Aux alentours de 7 heures, elle appelle sa voisine Christine pour lui demander d'emmener ses enfants chez sa sœur Frédérique à Barbizon. Une attitude qui ne lui ressemble guère, puisqu'elle ne se sépare jamais de ses enfants, encore moins un jour où ils n'ont pas école. Yves Bourgade a quitté le domicile à 14 heures. Florence a profité de cette absence pour rendre visite à ses enfants et à sa sœur dans le village où elle a grandi. Cette dernière lui a proposé de dormir à la maison, mais Florence a refusé. Elle préférait rentrer afin d'accueillir Yves. Le lendemain, le jeudi 26 février, elle se rend à la gendarmerie pour signaler l'abandon de domicile et passe la journée à contacter toute la famille Bourgade et les proches de son mari. En comparant son récit à de précédentes déclarations, notamment celle de la mère de Yves, ainsi qu'une déposition faite par Florence elle-même, les enquêteurs notent des incohérences sur le départ de Yves dans la journée du 25. À sa belle-mère, Florence a dit qu'il était parti à 16 heures, et aux gendarmes de Milly, elle a dit 10 heures du matin. Les hommes de la police judiciaire de Versailles notent également qu'elle n'a jamais essayé de joindre Yves le jour de son abandon de domicile, mais seulement le lendemain. Pour eux, c'est une preuve que Florence ment. Ils espèrent obtenir des aveux au dernier jour de sa garde à vue. C'est son ADN qui parlera à sa place. Le 3 juin, les résultats révèlent que l'ADN de Florence correspond à celui prélevé sur le mégot de cigarette. À cela, elle répond simplement que c'est un complot, bien qu'elle soit incapable de donner des éléments probants à sa théorie. À bout de nerfs, elle finit par commettre une erreur lors de nouvelles dénégations. Elle affirme que ce n'est pas elle qui a mis son mari nu. La nudité est un détail que les enquêteurs se sont gardés de lui communiquer. Selon eux, cela fait office d'aveu. Le juge d'instruction met en examen Florence Federle pour l'assassinat de son mari. Elle est placée en détention provisoire à la maison de Fleury-Mérogis. Pour Nathalie Gagné-Raymond, l'avocate de Florence, c'est une terrible erreur de jugement. Dans cette affaire, il n'y a aucun aveu, aucune preuve, seulement des éléments concomitants et un scénario monté de toutes pièces à partir de ces quelques éléments. Pour les enquêteurs, Florence avait le champ libre pour agir, dès le mercredi matin. Il est probable qu'elle ait pris toute la matinée pour tuer son mari, découper le corps, transporter le tronc à l'aide de la bâche du chantier et du liner jusqu'à la camionnette de service pour ensuite l'abandonner là pendant 24 heures, le temps de trouver une solution pour s'en débarrasser. Dans la nuit du 26 au 27 février, Florence a roulé jusqu'au parking, a mis le feu à ce qu'il restait de son mari et est rentrée chez elle au petit matin. Elle a récupéré ses enfants et leur a annoncé la triste nouvelle. Le mobile du crime pourrait être une rancœur qui n'a jamais fait que grandir au fil des années. Celle d'un mari infidèle, celle d'une fortune dilapidée, puis celle d'un rejet par sa belle famille. La situation a commencé à se dégrader au début des années 2000. Aux réunions de famille, Florence n'est plus joviale. Les dimanches sont vécus avec bien moins d'entrain. Yves perd de l'argent, ses déboires et sa vie dissolue le conduisent à être de moins en moins sérieux dans son travail. Mais ce qui va rendre la situation encore plus explosive, c'est la façon dont l'entrepreneur sabote le projet de vie de Florence. Un projet qui lui tenait très à cœur et dont l'échec lui anéantira le moral à tout jamais. À la fin de l'année 2003, Florence dépose sa candidature auprès de la DAS pour devenir famille d'accueil. Son parcours de vie plaît à cette institution chargée de placer des enfants présentant de lourds problèmes familiaux. Pour finaliser la démarche, elle doit recevoir plusieurs visites à son domicile afin de s'assurer que le cadre de vie soit le meilleur possible pour les futurs enfants confiés. Mais à chaque rendez-vous, Yves est source de problèmes. Il n'est pas du tout motivé à l'idée de participer à ce projet. Sa nonchalance durant les visites des responsables de la DAS conduit à un refus de la candidature. Florence Federlé ne lui pardonnera jamais ce nouvel affront. Tout ceci est survenu quelques mois avant que le cadavre de Yves ne soit retrouvé. Et si Florence Federlé s'était débarrassée de son mari parce qu'il représentait un frein à sa réussite dans la vie? Bien sûr, elle aurait pu envisager le divorce, mais était-elle seulement prête à affronter cette épreuve, à faire face à une belle famille dont elle s'est de plus en plus isolée? Le fils aîné de Florence est très complice avec son père. Peut-être a-t-elle eu peur de se voir refuser sa garde? Selon un expert psychiatre, Florence est une femme qui a une vision idéaliste du couple, cherchant à reproduire l'harmonie qu'elle percevait chez ses parents. Cependant, les comportements de son mari, ses infidélités et sa consommation excessive d'alcool ont terni cette image, mettant en péril l'éducation de leurs enfants. Yves a été relégué au rôle d'un enfant de plus dans la famille, plutôt que celui d'un père. L'amertume de Florence vient de sa profonde déception. Cependant, est-ce suffisant pour motiver un meurtre? À quelques mois du procès, le doute subsiste. Le sang présent dans la maison à Moigny-sur-École et dans la camionnette ne peut être analysé. La scie sauteuse qui aurait pu servir à démembrer le corps n'a jamais été retrouvée. Malgré le manque de certains éléments importants, un procès se tiendra. Cependant, le juge décide de ne pas retenir la préméditation comme chef d'accusation. Nous sommes le 15 janvier 2007. Florence Federlé se présente menottée dans le box des accusés de la cour d'assises d'Évry. Cela fait déjà 31 mois qu'elle est maintenue en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. Elle est marquée jusque dans sa chair. Devant sa belle famille, elle apparaît amaigrie, plus faible que jamais. Le procès doit durer 4 jours. L'avocate de Florence, maître Nathalie Gagné-Raymond, contre-attaque sur le manque de preuves et un mobile bancal selon elle. Elle rappelle que Florence est une mère de famille ordinaire qui a dédié une bonne partie de sa vie au bonheur de ses enfants. Sa personnalité ne colle pas avec celle d'un monstre sanguinaire tel que l'accusation la décrit. S'il est vrai que Florence a de l'amertume, elle ne manque pas d'empathie. Or, ce n'est qu'avec un manque d'empathie qu'elle pourrait découper un corps sans ressentir le moindre malaise. Pour maître Jean-Alain Michel, l'avocat de la famille Bourgade, l'accusée n'a rien d'une femme agréable. Pendant son procès, elle apparaît froide. Elle ne fait preuve d'aucune émotion lorsqu'elle évoque ses enfants. Et de surcroît, elle ne cherche pas à se défendre. Florence assiste à son procès en tant que spectatrice. Elle nie simplement les faits et répond non à la majorité des questions. Après 3 jours de procès, les jurés sont partagés. la culpabilité de Florence ne peut pas être établie de manière certaine. L'intervention de l'avocat général, maître Rodolphe Jarry, va faire pencher la balance de la justice du côté de la famille d'Yves Bourgade. Il revient sur le détail de la découpe du corps, particulièrement celle de la cheville droite taillée plus haute que la cheville gauche. Selon lui, cette mutilation un peu spéciale peut s'expliquer par le fait qu'il fallait éliminer un signe particulier qui aurait permis l'identification immédiate du corps de Yves. Lors d'une journée en mer, il avait sauté d'un bateau et s'était gravement abîmé les ligaments de la cheville droite. L'intervention chirurgicale qui en a découlé lui a laissé deux cicatrices de chaque côté de la cheville de 5 cm. Une particularité physique que seuls les membres de son cercle privé pouvaient connaître, dont Florence Federley. À la fin de son réquisitoire, l'avocat général requiert une peine de prison de 16 ans. L'avocate de Florence insiste une nouvelle fois sur le manque de preuves. Florence ne fait toujours pas d'aveu durant ce procès. Lors d'une dernière prise de parole, elle répète qu'elle aimait son mari et que seuls des barbares auraient pu le tuer. Après plusieurs heures de délibéré, les jurés la condamnent à 20 ans de réclusion criminelle le 19 janvier 2007. Florence Federley, abattue, retourne en prison. Elle semble accepter sa peine, mais au dernier jour de la date limite pour faire appel, elle relève la tête et décide d'entamer une nouvelle bataille juridique. Dans ce nouveau combat, elle est soutenue par un avocat plus virulent, maître Joseph Cohen-Saban. Lui déterre un élément capital qui pourrait tout changer, celle d'une audition d'un restaurateur qui n'a jamais été examiné plus que cela au cours de l'enquête. Ce dernier avait déclaré avoir vu Yves Bourgade en présence d'un homme d'une soixantaine d'années dans son établissement, le jeudi soir précédant la découverte de son cadavre. Un inconnu qu'il ne verra plus jamais après cette soirée. Les deux hommes ont dîné. Au menu, il y avait entre autres des champignons et des cornichons. Deux ingrédients non digérés qui ont bien été retrouvés dans l'estomac d'Yves durant l'autopsie. Ce nouvel élément innocenterait, selon lui, Florence, tout en contredisant le scénario des enquêteurs qui auraient voulu que l'accusé tue son mari dans la journée du mercredi 25 février. Cette découverte est présentée à la cour d'appel de Créteil. La cour choisit de retenir le témoignage crucial fourni par l'accusation, celui du père de Florence Federley. Lors de son audience, il avait déclaré que sa fille était devenue folle à cause des comportements répétés de son mari, Yves Bourgade, notamment sa consommation excessive d'alcool et ses sorties fréquentes. Il a fini par suggérer aux enquêteurs que sa fille aurait pu être capable de commettre un tel crime. La peine de Florence Federley, dans le doute, est requalifiée en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En mai 2008, la cour d'appel la condamne à 15 ans de prison. Pour maître Joseph Cohen-Saban, c'est une grande erreur judiciaire. Prendre le temps de fumer une cigarette en regardant le tronc de son mari brûlé est un non-sens, surtout lorsque la scène de crime suggère que le cadavre a été débarrassé à la hâte. Malgré tout, Florence a choisi d'accepter sa condamnation. Elle a continué à recevoir la visite de ses amis et de ses enfants en prison. Eux n'ont jamais douté de son innocence.